L'Évangile de Luc,
chapitre 18, une lecture des versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà, nous étudions cet évangile de Luc depuis plusieurs mois, et cette petite histoire des deux hommes, un publicain et un pharisien, qui montent au temple. Je crois que c'est vraiment au cœur du message que Luc veut transmettre. Vous savez, dans les westerns, il y a toujours les bandits et les shérifs. Dans les films de Disney, il y a toujours les princes et les princesses. Encore, peut-être ça va changer, mais pour l'instant. Dans l'évangile de Luc, il y a toujours des publicains et des pharisiens. Et de la même manière que dans les westerns, on ne se fatigue pas de voir les shérifs et des bandits, ou dans les films de Disney, de voir encore des histoires de princes et de princesses. Nous non plus, nous ne nous fatiguons pas de voir dans les paraboles de Jésus et dans les récits de cet évangile ces mêmes personnages qui se retrouvent pour illustrer des grandes vérités de la foi, les publicains et les pharisiens. Vous connaissez un peu ces personnages que Jésus va stéréotyper un peu, mais les pharisiens, c'était l'élite religieuse, des gens très religieux, très scrupuleux, très bien placés dans la société. Et puis les publicains, c'était tout le contraire, les collecteurs d'impôts qui travaillaient pour le compte de Rome, qui incarnaient un peu la bassesse morale de la société. Et si vous avez compris cette histoire, cette parabole de Jésus, vous avez compris la différence avec la foi chrétienne et tout le reste, toutes les autres religions, toutes les autres visions du monde. Donc c'est vraiment une histoire clé dans cet évangile de Luc. Alors pour étudier ce texte ce matin, je propose de voir une recherche de justice, ensuite deux manières de le faire, et enfin un résultat surprenant. Une recherche de justice, deux manières de le faire, et un résultat surprenant. Commençons avec ce que nous trouvons ici, une recherche de justice. C'est le verset 9 qui l'évoque. Un peu le souci de ces personnes, Jésus dit cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Vouloir se persuader qu'on est juste, est-ce que ça vous arrive? S'agit-il juste de quelques personnes, certaines personnes à l'époque de Jésus, ou est-ce que c'est plutôt un souci universel? Est-ce une préoccupation moderne? On pourrait dire, bon, à l'époque, il voulait être religieux, juste, et aujourd'hui, ça nous intéresse moins. Mais vouloir se persuader qu'on est juste, je pense que c'est au cœur de l'existence humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que la préoccupation moderne, la préoccupation de notre entourage, c'est plutôt être beau, ou être aimé, ou avoir réussi, pas tant d'être juste. Mais j'aimerais vous montrer ce matin, ça revient à la même chose. Vouloir être beau, être aimé, avoir réussi, être juste, tout ça retrouve dans le cœur humain. Parce que dans cette idée d'être juste, de se persuader qu'on est juste, dans la notion biblique de la justice, en fait, le mot signifie être approuvé, réussir l'examen. Être acceptable aux yeux du juge. C'est-à-dire, l'idée, c'est se retrouver sous les projecteurs et ne pas avoir honte. Se retrouver sous les projecteurs et ne pas devoir rougir, d'un manquement, d'une lacune, d'un échec, d'une faute. Et vous voyez, si on le comprend comme ça, c'est une préoccupation quotidienne de tout le monde. Et finalement, l'être humain fait beaucoup de choses pour se persuader qu'il est juste. Alors bien sûr, l'implication dans une religion, comme a pu faire les pharisiens, c'est une manière de le faire. Mais elle n'est pas la seule. Je suis tombé cette semaine sur un chant du début des années 80. Alors je dois avouer, c'est pas vraiment mon époque, c'est pas vraiment mon style. Et je regrette pas d'avoir raté un peu les époques disco et tout ça, mais je suis tombé sur ces paroles, peut-être vous allez les reconnaître, c'est pas pour choquer personne, mais il y avait ce chanson qui apparemment était très à la mode, « T'es ok, t'es bat, t'es in ». Alors voilà, apparemment vous le connaissez. Moi-même, j'ai dû chercher la définition du mot « bat » parce que je ne comprenais pas. Mais « bat », ça veut dire « agréable, bon, sympa, réussi, tout ça ». Et le strophe dit, ça m'a attiré aussi, « j'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes, donne-moi ton adresse, je veux que quelqu'un m'aime ». J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes, donne-moi ton adresse, c'est une histoire de garçon-fille, je veux que quelqu'un m'aime. Vous voyez, c'est la même préoccupation aujourd'hui. Je veux que quelqu'un m'aime, je veux quelqu'un qui m'approuve, je veux que quelqu'un me dise « t'es ok, t'es in ». Et ce dont on a très peur, c'est que quelqu'un dise « t'es nul, t'es raté, t'es out ». Alors, pour ça, on se tourne aujourd'hui vers les relations garçon-fille, par exemple. Parce que c'est ça qui nous donne le sentiment. C'est ça qui nous permet de se persuader qu'on est quelqu'un de bien, quelqu'un de juste. Alors, je reconnais qu'un temple et une discothèque, c'est des lieux très différents. Et les activités qu'on fait dedans sont très différentes. On aura plutôt tendance de cautionner les activités d'un lieu qu'un autre. Mais se peut-il que les gens les fréquentent pour la même raison au fond ? Un autre exemple, le souci moderne, c'est, on parle tout le temps, c'est l'estime de soi. Quelqu'un disait, je lisais un article récemment, que la force des analyses de Freud, et puis c'était un autre psychologue canadien assez connu, Albert Bandura, la force des analyses de Freud et de Bandura vient de ce qu'ils ont exploré la manière que l'homme se cache, se justifie. Dans le langage psy, on parle des mécanismes de défense, vous savez, pour protéger son ego. Mais cet article disait, au fond, il s'agit de manière que nous nous persuadons d'être justes. On a rebaptisé le langage, on a changé le vocabulaire, mais on cherche à expliquer le fonctionnement humain. Donc on parle de mécanismes de défense pour, au fond, se persuader qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de juste. Et même l'article était intéressant, disait que même cette démarche, ce langage des psychanalystes est en soi un mécanisme de défense, une manière de se justifier, parce qu'au lieu parfois de nommer tel ou tel comportement comme un péché, on va le nommer comme un mécanisme de défense, un mécanisme de valorisation personnelle, comme ça on se sent moins coupable d'une faute morale, d'un péché. Donc vous voyez, c'est un projet ancien, vouloir se persuader qu'on est juste. Et c'est un projet moderne. C'est un projet dans les sociétés religieuses, c'est un projet dans la société non religieuse comme la nôtre. Et la Bible dit qu'au fond, nous cherchons à nous persuader qu'on est juste parce qu'un jour, nous savons que nous allons nous retrouver sous les projecteurs de Dieu. On a beau réussir l'estime de soi, au fond, on est tracassé par l'estime de Dieu. Quelle est son estime sur ma personne ? Et quand je me retrouve sous les projecteurs divins, aurais-je honte? Est-ce qu'on va me dire « t'es ok » Et on n'est pas si sûr. Donc on veut toujours se persuader qu'on est juste. Alors, deux manières de le faire que Jésus met en avant dans cette parabole. Incarné par ces deux démarches, ces deux hommes, un publicain et un pharisien. Et ces deux hommes qui montent au temple, en fait, montrent les deux grandes façons d'aborder Dieu, d'aborder la vie, d'aborder l'éternité. Et bien sûr, Jésus va les montrer pour montrer que l'un est plutôt mauvais inefficace et l'autre serait la bonne façon à adopter par nous tous. Donc regardons d'abord la démarche du pharisien, la manière du pharisien. Il monte au temple, verset 11, et il prie debout en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors comment lui fait-il pour se persuader qu'il est juste, même pour persuader Dieu en quelque sorte, qu'il est juste? Qu'est-ce qu'il fait pour rechercher la justice, pour réussir l'examen, qu'on dise qu'il est in, qu'il est ok? Bien, ce qu'il fait, c'est qu'il met en avant ses atouts, il se compare aux autres, il parle de ses œuvres, de ses accomplissements. Vous voyez, il s'appuie sur son comportement, il s'appuie sur ses mérites, il s'appuie sur ses qualités. Ça, la Bible appelle ça un salut par les œuvres, cette manière de se mettre en avant et de s'appuyer sur ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on accomplit pour se persuader qu'on est juste. Mais cette manière de vivre, cette manière de parler à sa conscience, cette manière de parler à Dieu, conduit à un certain nombre de problèmes, finalement, que Jésus veut faire ressortir par cette parabole. Quels sont les problèmes de cette démarche? Premièrement, cette démarche, cette manière de se persuader qu'on est juste, conduit à mépriser les autres. C'est une vérité clé de cette parabole. Luc l'introduit en disant que Jésus dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, littéralement en méprisant les autres. Et vous voyez bien le mépris qu'a ce pharisien envers son voisin de temple, son voisin de publicain qui est dans un autre coin, qui prie, parce qu'il le dit, verset 11. Je te rends grâce de ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Vous entendez une note de mépris, de dédain. Et cette manière de se persuader qu'on est juste conduit systématiquement à cette attitude dans notre cœur, un mépris pour les autres, on les regarde d'en haut. Si on essaie de persuader qu'on est quelqu'un de bien en mettant avant ses atouts peuvent être sa moralité, ou bien son ethnie, ou bien sa beauté physique, ou sa position sociale, toutes ces choses à laquelle on est attaché pour qu'on nous dise « t'es ok, t'es bien, t'es in », eh bien forcément cela produit un regard vers les autres qui est méprisant, qui est dédaigneux, qui est snob. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas ces choses, à la fois on est content, parce que nous on l'a et il l'a pas, mais on méprise comme ce publicain. Donc une démarche qui conduit à mépriser les autres, à snober les autres, ça, c'est pas bon finalement. Deuxième problème avec cette démarche. Regardez encore les versets. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous avez vu ce qu'il vient de faire? C'est subtil, j'ai failli ne pas le remarquer moi-même. Vous savez, les pharisiens étaient très attachés à la loi de Dieu, la loi de Moïse, les commandements, les 10 commandements. Effectivement, dans les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. C'est une très bonne chose. Donner la dîme de tous ses revenus, ça c'était dans la loi de Dieu. Ne pas être ravisseur, ne pas être injuste, c'est des principes clés que Dieu donnait dans sa loi. Mais jeûner deux fois par semaine. Nulle part dans l'Ancien Testament, on exige le jeûne deux fois par semaine. Il y avait un jour, le jour des expiations, effectivement, il fallait jeûner en quelque sorte, mais c'était une fois dans l'année. Donc, vous voyez ce qu'il a fait? Il a glissé dans une liste de comportements moraux qui sont plutôt bien, effectivement, il ne faut pas être adultère, injuste, mais il a glissé dans sa liste, il a glissé quelque chose d'arbitraire, une tradition humaine, quelque chose que Dieu n'a pas finalement demandé, et il l'utilise pour se persuader qu'il est plus juste que d'autres. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Mais depuis quand Dieu a-t-il demandé ça? C'est comme si je disais, moi, je suis un bon père de famille, je suis un mari aimant et je porte une cravate bleue. Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Mais cet homme, il le fait subtil et c'est comme ça que ça fonctionne, cette manière de vivre, de se persuader qu'on est juste. On glisse des choses arbitraires, des traditions humaines, pour se convaincre qu'on est meilleur que les autres. Et les religions, c'est flagrant. La manière qu'ils font ça, ils inventent en quelque sorte des choses arbitraires. Jeûner un mois de juillet, est-ce que ça fait quelqu'un plus spirituel, plus proche de Dieu? Pas forcément. Toute une religion est bâtie là-dessus. Les religions, c'est évident, mais nous le faisons tous. On peut dire, ouais, voilà, je suis un bon père de famille, je suis un mari aimant et j'ai telle couleur de peau. Mais qu'est-ce que ça a à faire dedans? Et pourtant, les gens vivent comme ça pour se persuader qu'ils sont justes. Donc, ça conduit à l'invention, la fabrication des choses arbitraires, des critères arbitraires, qui conduit à des problèmes, à un légalisme terrible. Autre problème, donc, de cette démarche que Jésus fait ressortir. Un troisième problème de cette démarche, de vouloir se persuader qu'on est juste en mettant en avant ses atouts, sa performance, ses qualités, c'est que ça conduit à l'égoïsme. Vous avez remarqué à quel point le mot « je » revient dans sa prière. « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, je jeûne de foi, je donne la dîme. » En général, il faut se méfier des prières, et des cantiques aussi d'ailleurs, où il n'y a que du « je ». Surtout dans un moment de temple, de prière, de culte, on ne veut pas mettre le regard sur soi-même, mais plutôt sur Dieu. Mais cette prière est foncièrement égoïste. Donc oui, il parle de bonnes choses, mais l'accent c'est sur lui. C'est comme s'il félicite Dieu d'avoir rencontré quelqu'un comme lui. Dieu, je te rends grâce de ce que moi, quoi. Donc, je te rends grâce de ce que je donne la dîme. Donc, même ça, il donne la dîme qui est normalement un geste altruiste, un geste pour l'autre, mais il le fait de manière égoïste, pour pouvoir s'en vanter. Donc ça conduit à l'égoïsme. Et encore dans ce monde, dans toutes ces manières de se persuader qu'on est juste, même dans les relations garçon-fille, t'es ok, t'es in, quand on a besoin d'entendre ça d'une autre, quelque part on est en train de vivre la relation pour soi-même. Et pas envers l'amour de l'autre. Il y a même dans la strophe, il dit non, je ne veux pas t'épouser, mais on peut quand même se mettre ensemble, tout ça. Qui incarne l'optique de nos jours face aux relations, pas besoin de s'être tourné vers l'autre dans un engagement, le mariage, mais on fréquente pour ce que ça peut m'apporter. Passé devant le tabac presse cette semaine en voiture, j'ai vu donc la fiche de Philosophie Magazine. L'article à la une, c'est que c'est l'amour de soi. Et donc, j'ai recherché un peu, effectivement, l'article commençait comme ça. Chaque époque fredonne son propre refrain. La nôtre l'a choisi onctueux et enivrant. Il tient en deux mots, aime-toi. Notre époque a son évangile qui se formule ainsi. Aime-toi toi-même et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Trouvez pas mal, parce que nous sommes habitués à dire chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront dans les paroles dessus, mais ils ont reconnu que l'évangile de notre époque c'est aime-toi toi-même et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Pourquoi on s'aime soi-même? Pourquoi on a cette démarche? Oui, c'est pour un peu dans la même attitude du pharisien. On se met en avant en pensant que c'est ainsi qu'on peut se persuader qu'on est juste. Donc, une démarche qui conduit à mépriser les autres, à inventer des règles supplémentaires et à être égoïste, finalement, est-ce que c'est une démarche juste? Est-ce que c'est une démarche intéressante pour nous? Jésus va dire que non. Quand ça crée de telles attitudes dans le cœur, cette démarche, cette manière de rechercher la justice est abandonnée. Mais il y a une autre manière de faire. Voyons maintenant l'autre manière, celle du publicain. C'est tout le contraire. Il se tient à distance. Il n'ose pas regarder le ciel. Il se frappe la poitrine. Tous ces détails évoquent un sentiment d'humilité, de honte, d'indignité devant Dieu. Sa prière est beaucoup moins éloquente, moins développée que celle du pharisien. Parfois, des gens me disent, mais je ne sais pas prier. Et souvent, je leur dis, vous êtes en bonne compagnie avec ce public. Hein? C'était une phrase, une petite phrase, sa prière. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Amen. Et c'était la bonne prière. C'était la prière qu'il fallait. C'était la prière réussite. Et dans cette démarche, lui, il ne cherche pas à mettre en avant ses mérites. Il dit, je suis un pécheur. Je suis frappé quand les personnalités connues, les politiques ou d'autres, quand ils sont impliqués dans un scandale, comme c'est souvent le cas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent toujours quelque chose dans le genre, oui, j'ai fait des erreurs, mais je sais qu'au fond, je suis quelqu'un de bien, parce que j'aime ma famille. Lui, il ne dit pas ça. Oui, j'ai subi des pressions politiques, romaines, mais au fond, je suis quelqu'un de bien. Non. Et il n'essaie pas de justifier son comportement. C'est vrai que les activités du publicain étaient mauvaises. Il n'essaie pas de psychanalyser la chose. Il dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Donc voilà deux démarches. Rechercher la justice, rechercher l'approbation de Dieu. La démarche pharisienne. La démarche publicaine qui incarne finalement deux manières de vivre. Maintenant, voyons le résultat surprenant. Un de mes garçons me voyait préparer l'écran que vous voyez, et donc il voyait ce troisième point, un résultat surprenant. Alors il dit, papa, tu peux me dire la surprise? Je pense que vous, s'il y a un peu moins de suspense pour vous, avec le texte sous vos yeux. Mais pour l'auditoire juif qui écoute ce parabole, le résultat, la conclusion qu'offre Jésus est hyper surprenant. On a vu les deux démarches, les deux prières, les deux hommes, et si on avait demandé à cet auditoire juif qui écoutait Jésus, lequel de ces deux hommes était plus juste, plus proche de Dieu, personne n'aurait dit le publicain. Mais Jésus dit, sa conclusion, je vous le dis, celui-ci, le mauvais, le bandit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Celui-ci est rentré chez lui, justifié. Alors ce mot justifié, c'est vrai, c'est un mot-clé de la Bible. L'apôtre Paul va beaucoup en parler. Mais déjà ici, nous trouvons l'expression dans la bouche de Jésus. Justifié, c'est le sujet ce matin. Oui, ces gens qui voulaient se persuader qu'ils sont justes, eh bien cet homme rentre justifié. Le mot veut dire déclaré juste. Le verdict est tombé, il est justifié, il est juste. Il est ok, il est in, il est impeccable, il est parfait. C'est ce que veut dire ce mot, justifié. Et Jésus dit, lui plutôt que l'autre. C'est ça qui est surprenant. Comment Jésus pouvait dire cela, que celui-ci est rentré justifié, juste, aux yeux de Dieu? Peut-être pour mieux comprendre, j'attire votre attention sur ce mot dans sa prière. Il y a beaucoup de choses dans ce petit mot. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Ce mot apaisé, peut-être ça nous passe comme ça, mais c'est aussi un mot clé de la Bible, notamment de l'Ancien Testament. Un mot très important dans la Bible qui veut dire rendre propice. C'est le même mot qu'on va trouver dans l'Épître aux Hébreux où il est grandement question de ces choses. Rendre propice, rendre le regard favorable. C'est ça le souci depuis le début, depuis qu'on parle ce matin, cette recherche de justice. On veut le regard propice des autres. Et finalement, celui qui compte avant tout, c'est le regard propice de Dieu, le Dieu éternel. Et donc, dans sa prière, il évoque cette notion déjà. Bien sûr, il faut toute la Bible pour comprendre la richesse de ce mot apaisé. Mais ils étaient dans le temple, souvenez-vous. Ils sont montés dans le temple et à quelques mètres, certainement, de là où ils priaient, peut-être dans un des parvis, il y avait à l'intérieur du bâtiment, du temple, il y avait le propitiatoire. C'était cette chose au cœur du culte juif, au cœur de démarche dans le temple, ce propitiatoire où on répandait le sang du sacrifice. Et dans cette foi juive, c'est ça qui rendait Dieu propice, rendait le regard de Dieu favorable envers le peuple. Et donc ce choix de mots n'est pas anodin puisqu'il est, il dit « Sois propice envers moi, lui qui est juste à côté du propitiatoire. » Mais ce qui saute aux yeux, dans ce parabole, c'est que personne n'a offert le sacrifice, pas de sacrifice. Normalement, la démarche au temple, on pense à venir au temple. Bon, c'est vrai, c'était un lieu de prière. Mais avant tout, c'était un lieu de sacrifice. On apportait des sacrifices animaliers. Et c'est ça qui rendait le regard de propice de Dieu. Mais ce publicain, il vient dans ce temple, il fait cette prière, il n'offre aucun sacrifice, juste une prière, sois apaisé envers moi. Et Jésus dit, il rentre justifié. Il rentre avec le regard propice, le regard favorable de Dieu, sans avoir fait un sacrifice animalier. Comment Jésus pouvait-il dire une telle chose? Eh bien, c'est parce que, effectivement, les sacrifices animalier n'obtenait pas finalement ce regard favorable de Dieu. Les dîmes et les offrandes, la loi de Moïse, toutes ces choses, les œuvres que ce pharisien mettait en avant, ça n'obtenait pas, au fond, le regard favorable de Dieu. Il fallait plus. Il fallait d'autres sangs. Il fallait un autre propitiatoire. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est allé sur la croix pour porter nos péchés et pour nous rendre justes. Lui, le juste, il nous accorde sa justice. Et le sens de sa mort, dit la Bible, c'est ça. Et tout ce temple, toutes ces choses étaient une image de ce que Jésus donne sa vie, donne son sang, pour il apaise la colère de Dieu en le prenant sur lui pour nous offrir le regard favorable de Dieu. Et ce qui rend Dieu propice à notre égard. Donc, nous aussi, c'est ça le message merveilleux de l'Évangile. Vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui justifié. Pas besoin d'offrir un sacrifice. Pas besoin de courir le ciel et la terre. Pas besoin de faire grand nombre d'œuvres de mérite. Pas besoin de montrer tant d'atouts, comme font beaucoup, vous pouvez rentrer aujourd'hui justifié. Pourquoi? Parce que Jésus vous le rend, vous le donne en cadeau. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de devoir adopter toutes ces stratégies qu'adopte notre monde pour se persuader qu'on est juste, qu'on est quelqu'un de bien, toutes ces stratégies qui finalement vous rend égoïste, qui vous met en concurrent avec vos semblables, qui vous rend méprisant à leur égard, qui vous rend centré sur vous-même, qui vous rend inquiet de savoir est-ce que le verdict est favorable ou non, qui vous pousse à, parfois dans le péché, pour chercher un amour, une relation, quelqu'un qui m'aime. Vous n'avez plus besoin de ces stratégies-là. Vous pouvez vous tourner vers le Dieu de l'univers et dire « Oui, effectivement, j'ai besoin de son amour, sa tendresse. » Et entendre ce Dieu dire « T'es ok, t'es accepté, t'es in dans mon paradis. » Et quand vous avez ça, vous êtes libre, vous êtes fort, vous êtes joyeux. Et vous pouvez vous aussi rendre témoignage, comme Kevin a fait ce matin, de la grâce de Dieu qui justifie les pécheurs que nous sommes.